VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Rwanda, Human Rights Watch accuse l'armée rwandaise de recourir à la torture pour extorquer des aveux à des suspects détenus illégalement dans un rapport publié ce mardi. Selon ce document de 102 pages intitulé « Nous t'obligerons à avouer torture et détention militaire illégale au Rwanda », l'Organisation de défense des droits de l'homme basée à New York a documenté 104 cas de personnes emprisonnées illégalement dans les centres de détention de l'armée rwandaise entre 2010 et 2016. Et pour une majorité des détenus, victimes d'actes de torture, notamment des simulacres d'exécution. Human Rights Watch précise que la plupart des prisonniers ont été incarcérés pour leur appartenance présumée au FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Des rebelles hutus rwandais installés dans l'est de la RDC, dont certains des membres fondateurs sont accusés d'avoir participé au génocide de 1994 au Rwanda. Rwanda toujours, le juge français chargé de l'enquête sur l'attentat contre le président rwandais Juvenal Habyarimana en 1994 veut confronter deux membres du clan du président Paul Kagame au pouvoir avec un nouvel accusateur, ce qui risque de raviver les tensions entre Paris et Kigali, Bagasikoura.
Le nouveau témoin a été entendu par le juge Clément Herbeau qui a repris l'enquête. Il dit avoir chargé deux missiles dans un camion vers Kigali en présence de James Kabarebe, une figure de la rébellion à l'époque, aujourd'hui ministre de la Défense. Il prête même des propos à M. Kabarebe se félicitant de la mission le 6 avril 1994 au soir qui a marqué le début des massacres à grande échelle. Le juge a ordonné une confrontation mi-décembre à Paris avec James Kabarebe et Frank Nziza, le tireur présumé. Un des avocats des deux hommes, Maître Léon Le Foster, a dénoncé une manipulation médiatique. L'enquête, close une première fois en 2014, a été relancée en 2016 pour entendre un ancien général entré en dissidence. Faustin Kayumba Nyawasa, réfugié en Afrique du Sud, n'a jamais été entendu par la justice française. Ce dernier rebondissement ne va pas calmer les relations déjà tendues entre Paris et Kigali, qui, de son côté, avait publié une liste de 22 officiers supérieurs français accusés d'implication dans le génocide.
RDC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne les attaques au cours desquelles deux casques bleus de Tanzanie ont été tués et 18 autres casques bleus blessés dans l'est de la RDC, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué publié lundi soir à New York. Selon la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, cette attaque perpétrée dimanche dans le territoire de Beni, a été menée par les ADF, les rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées, qui aurait aussi tué la veille une vingtaine de civils dans le même secteur. Au Libéria, les électeurs choisissent ce mardi un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Parmi les 20 candidats en lice, le vice-président sortant Joseph Boakai et le légendaire footballeur George Weah. Reportage Bram Postumus, récit Lionel Gaïma.
L'hymne de campagne du parti au pouvoir est on ne peut plus clair. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur mardi et c'est nous, chantent ces militants du Parti de l'Unité. Rosa Labat, une militante, déborde d'enthousiasme.
Nous avons besoin de quelqu'un à même de prendre sa relève et continuer.
Une allusion à la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Pour les militants du Parti de l'Unité, nul ne mieux placé pour lui succéder que son vice-président Joseph Boakai. Réservé, il n'a jamais été accusé de corruption et joue d'une bonne réputation. Sa candidature ne fait pas pour autant l'unanimité dans le pays. Le pasteur Ibrahim Ko plaide pour l'alternance. Je suis pour la continuité, mais dans un sens différent. Ce parti nous a servi pendant 12 ans, donc l'heure est venue de changer. Dit changement au Libéria et le regard se tourne vers l'immense quartier général de campagne de George Weah. Légende du football et sénateur de Montserrado, il a brigué la présidence à deux reprises et pense que la troisième fois sera la bonne. Sa militante, Cécilia Moi, est très convaincue.
Je vote pour lui pour l'avenir. Il fera quelque chose de bon pour le Libéria.
Parmi les grands besoins du pays, la remise en état d'un système de santé délabré et dont les lacunes ont été visibles durant l'épidémie d'Ebola qui a pris fin il y a un peu plus d'un an. Les secteurs de l'éducation et des infrastructures routières nécessitent de grands investissements. La commission électorale en a fait la meilleure expérience dans l'acheminement du matériel électoral dans les coins reculés. Les résultats provisoires attendus cette semaine permettront de déterminer s'il y aura un second tour.
En Côte d'Ivoire, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a été inculpé et écroué lundi après son audition dans une affaire de cache d'armes. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre Souleymane Camarate Kone, dit Soul to Soul, pour complot contre l'autorité de l'État, a déclaré le procureur Richard Christophe Adou. Une cache d'armes avait été découverte en mai à son domicile lors d'une mutinerie à Bouaké, deuxième ville du pays et fief de l'ancienne rébellion des années 2000. La cache contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions, selon le procureur Adou.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise migratoire, la France va lancer des missions au Niger et au Tchad pour identifier des personnes pouvant bénéficier du droit d'asile sur des listes proposées par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'est ce qu'a annoncé le président français lundi à Filippo Grandi, président du HCR. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Emmanuel Macron a expliqué au patron du HCR, Filippo Grandi, que ses missions visent à prévenir l'afflux de migrants économiques non éligibles au droit d'asile. L'Élysée a précisé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides va se rendre fin octobre au Niger. La France prévoit ouvrir sur les deux prochaines années 10 000 places pour les réfugiés acceptés depuis le Niger, le Tchad, la Turquie, le Liban et la Jordanie. Le président français a rappelé que son pays veut mieux accueillir ceux qui ont droit à l'asile, mais expulser de manière beaucoup plus rigoureuse les migrants économiques qui n'ont pas droit à ce statut. Il a aussi annoncé une augmentation de 10 millions d'euros d'aide de la France au HCR et à l'Organisation internationale pour les migrations. Cet argent va servir à appuyer les actions de ces organes de l'ONU en Libye pour une protection des personnes près des zones de conflit.
Et pour terminer, l'ancienne chanteuse et musicienne burundaise Kajanine s'est associée à plusieurs associations pour venir en aide aux malvoyants. La première opération sur des patients sera en Côte d'Ivoire. Et Kiabado a joint Kajanine à Bamako, au Mali.
Quand on n'a pas les yeux, on n'a pas d'avenir. Il n'y a pas qu'en Afrique, même en Europe, c'est assez compliqué quand on souffre d'une cécité importante. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a des organismes qui s'occupent des aveugles et qui les scolarisent, etc. Mais ça s'adresse à une très petite partie.
Comment vous est venue l'idée de vous intéresser au handicap et à la malvoyance, la non-voyance ?
J'ai été ambassadrice de l'UNICEF pendant 15 ans. J'ai arrêté parce que je considérais qu'il fallait laisser la relève à la jeunesse, à la nouvelle génération. Mais ce que j'ai appris, j'étais ambassadrice surtout vaccin. Si un enfant n'est pas vacciné, il y a peu de chances qu'il survive. Et il faut savoir qu'un enfant aveugle, il meurt dans les 2 ans. Personne ne sait ça. Et qu'il y a des millions d'aveugles, des milliards d'aveugles sur la planète. J'ai récolté un peu de sous, j'ai des fonds.
Vous dites récolter un peu de sous, mais c'est quand même un peu plus qu'un petit peu, puisqu'il y a quand même le projet de 100 enfants qui seraient opérés. C'est beaucoup.
Alors, on espère un minimum, avec ce qu'on a, on espère un minimum de 100 enfants, peut-être même qu'on peut aller jusqu'à 200. Mais là, je suis en train de mettre le projet en place, parce que c'est une première pour moi. À force de voir au carrefour des grandes villes, des aveugles qui mendient, mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas l'aveugle adulte qui mendie, c'est le petit fils. C'est le petit garçon qui est à côté, qui est mobilisé à vie pour s'occuper de cet aveugle. Donc, là, ça handicape la vie de 2 personnes, déjà, d'office. Donc, je suis en train de mettre en place ce projet pour partir avec un organisme de médecins qui opère. Ça, il s'appelle CN Smile, qui font des missions d'opération des yeux. Mais comme il n'y a pas toujours assez d'enfants à opérer, c'est un projet mother and child, la mère et l'enfant. C'est-à-dire que quand dans une famille, une maman aussi est aveugle, c'est une catastrophe pour toute la communauté. C'est une mission d'une semaine de 15 jours. Les médecins, ils arrivent, ils opèrent, ils repartent. On peut opérer des cataractes, on peut opérer certaines pathologies. Et quand vous êtes opéré, vous êtes guéri définitivement. C'est ça qui m'intéresse. Mais j'ai une autre association aussi qui a très envie de se greffer sur ce projet. Eux, ils s'appellent Eyes for the World. Eux, ils donnent des mesures et ils donnent des lunettes. Donc on aimerait bien faire une action conjointe, une mission conjointe entre ceux qui font la chirurgie et ceux qui donnent des lunettes. Comme ça, là, on touche encore plus de monde.
Kadjani, ancienne chanteuse et musicienne burundaise. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.